Un père mastique, le plus mastoc.
Un pervers, le plus pervers.
Et après qui les deux impairs courent-ils aujourd'hui ? Le nom de leur prochaine victime, Yves Simon, chanteur, écrivain, journaliste. Tout ça, tout le monde le sait, ce n'est pas suffisant pour les deux impairs. Il faut aller chez lui, histoire de voir.
Et c'est tout vu avec cette seconde visite consacrée à Yves Simon. En 85, un certain Thierry Ardisson sévissait déjà en binôme à la télévision. À l'époque, celle-ci était publique puisqu'il s'agit de TF1 avant privatisation. L'émission s'appelait « Tapage nocturne » et d'un sens rendait hommage à certaines pratiques très marginales de la police, disons sévèrement musclées. Ici, de la pure fiction, il va de soi. Bonjour et bienvenue dans cette troisième visite de la saison 8 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Petite déclinaison d'identité d'usage pour un poète, écrivain, chanteur.
Allons-y, ton nom.
Simon.
Simon.
Ça vient d'où ça ?
Ça vient de l'est de la France et du un peu plus au sud aussi.
Ça veut dire quoi ça ?
Ma mère était juive et mon père était acrobate.
Joyeux mariage.
Et de quel pays il venait, lui ? Ton père, c'était pas un Français non plus,
si ? Ah non, si, il était Français.
Il était Français.
Il a fait la guerre, oui. Aiguilleur à la SNCF.
D'accord. Vous aideriez les trains pendant la guerre ?
Non, pas du tout. Il fauchait des légumes pour me nourrir, ma mère et moi.
Il a pas dû en faucher beaucoup, t'es pour hyper.
Allez, viens ici, toi.
Ah non !
Allez !
Allez, remonte !
Ah,
les ordures. J'aime la musique, j'aime la matière sonore, j'aime ce qu'on peut faire avec du son, avec la voix, avec des instruments dans un studio. C'est une matière comme les mots, comme de l'architecture, et c'est un message.
La renommée d'un chanteur se mesure souvent au nombre de fans. Yves Simon, le chanteur, en a beaucoup. La qualité d'un écrivain se mesure quelquefois à l'obtention d'un prix. Yves Simon, l'écrivain, reçoit le Médicis.
Après un court extrait du 20h de France 2 le 24 août 99, le 19-20 d'FR3, fin novembre 91, alors présenté par Paul Amar, l'avait rencontré dans un troquet parisien.
Depuis 20 ans déjà, Yves Simon promène sur cette fin de siècle le regard désenchanté et un peu mélancolique d'un poète à la fois engagé et dégagé.
Désenchanté n'est pas forcément désabusé. Quand il y a un désenchantement du monde, un sociologue disait c'est la perte de relation avec l'invisible. Moi, je pense que les écrivains établissent des réseaux invisibles entre tous les objets perdus du monde.
Ni repliés, ni déployés, ils se sentent pliés. Pliés à tout, aux lois, aux modes, à la pesanteur. Souvent, ils s'imaginent vivre à une époque différente, mais finissent par penser que celle-ci vaut toutes les autres. Ils s'évadent alors avec des mots où on peut repérer azur, banquise ou quelques noms de pays qui évoquent le corail. Des décors de mots qu'ils inventent pour les lancer dans le ciel, juste au-dessus de leur tête, près des nuages, afin de les regarder et de se donner l'illusion que ce qu'ils vivent là, là où ils sont, peut s'anéantir par la seule force de ce que leur bouche prononce. Elle dit alors qu'elle va partir pour l'Antarctique, résister des mois aux glaces et aux tourments du froid, sentir sa peau durcir, ses doigts s'engourdir, et ne penser qu'à une seule chose, vaincre la mort du froid, du désespoir, la mort des glaces. Lui parle d'Amazonie ou d'un océan à traverser, non pour rejoindre un continent, un océan à traverser du haut en bas pour aller à la rencontre du centre de la Terre. Oublier alors l'air et l'azur, le ciel et les étoiles pour s'enfoncer dans le monde d'où avait surgi la première vie. Il se croit pris entre les forces qui les dépassent, un excès de monde qui leur parviendrait par toutes sortes de réseaux et en même temps une absence de monde, parce que ces images qui scintillent sur des écrans ne sont pas le monde. C'est un îlot détaché sur lequel ils ont le sentiment de séjourner comme après un long sommeil ou un naufrage, sans souvenir de ce qui a pu se produire entre le moment où un désir sans forme, mais violent, les aurait habités, et aujourd'hui, où c'est une absence de désir tout aussi tenace qui les assomme. Une souffrance. Le contraire d'une apathie où rien n'aurait d'importance. Bien au contraire, une souffrance de manque, comme si le reste du monde se trouvait à l'autre bout de l'univers et qu'ils crient sans cesse, eux, sur leur îlot désert, crient qu'ils veulent toucher, prendre, recevoir, donner, qu'ils souhaitent des soupirs, des mots, des râles, et des pieds qui dansent. Yves Simon, La dérive des sentiments, Grasset, 91.
Qu'est-ce que c'est qu'une dérive ? C'est ne pas savoir d'où on est parti ou avoir oublié d'où on est parti et ne pas très bien savoir où on va. C'est aussi surfer à la surface de ses sentiments, à la surface des valeurs caduques et pas remplacées par d'autres valeurs. Et c'est peut-être aussi, c'est pour ça que ce n'est pas désespéré, c'est peut-être atterrir ou accoster vers une île mystérieuse qui finalement pourrait être pas si mal que ça.
Une vie comme ça, je la voudrais avec toi. Une vie comme ça, je la voudrais avec toi. Avec le bruit des vagues sur un trottoir. Un sous-marin sorti de tes cuisses noires. Une vie comme ça, je la voudrais avec toi. Une vie comme ça, je la voudrais avec toi. Avec un revolver sur un comptoir. Entre une absinthe verte et mon espoir.
En 2018 sort l'album Génération est perdue, où ne se trouvent que des reprises bien actuelles de titres anciens d'Yves Simon. Ainsi, Lily Wood on the Prick y chante sa version d'Une vie comme ça, dont l'original était sorti 40 ans plus tôt, en 77.
Ah, Yves Simon, bonsoir. Tu te souviens la dernière fois qu'on s'est vu ? C'était très baston.
C'était où ?
C'était dans un hôtel et on te mettait la tête dans la baignoire.
Oui, c'est bien ça. Alors.
Tu venais de te fêler une côte. Et nous, on appuyait sur la côte qui était fêlée.
Et qui m'avait fêlé une côte, c'était Depardieu.
C'est Depardieu qui avait fêlé une côte.
Il y avait un bon enchaînement.
Décidément, GG. Tout début 89, double actualité d'Yves Simon. D'où ses retrouvailles avec le royaliste Ardisson sur le plateau de Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Je précise royaliste en raison d'une allusion assez claire dans le son qui vient. Écoutez.
Alors tu sors un disque et un livre en même temps. Un disque qui s'appelle Liaison. T'as bossé avec Woolsey, t'as bossé avec Goldman. Il y a une chanson qui a un certain succès déjà, qui s'appelle Né en France.
J'imagine que tu peux y être sensible. Ouais. Il y avait quelque chose qui me satisfaisait très très bien. C'est peut-être une des choses d'avant la Révolution qui me reste bien. C'est qu'on disait que tous les enfants nés sur le sol du royaume sont français. Je pense que ça est toujours valable aujourd'hui, sauf qu'on change royaume pour république.
Saint-Malo, c'est là, t'es né où ça? Saint-Étienne, Étienne, tu veux y rester chez toi? À Marseille, y'a le port et la mer, des revolvers. À Marseille, y'a le port et la mer. Bridé, frisé,
tous les enfants nés en France.
Spingouin, Germain,
tous les enfants nés en France.
Blackos, Portos,
tous les enfants nés en France.
Sont français. Tu connais Dallas et Palavas, les mots, les flots. Et tu dis je t'aime en français quand tu piques la fille de ton meilleur ami avec qui tu as grandi dans le même HLM.
Tous les enfants nés en France.
de foot. Tu trembles, tu pleures. T'as plus trois couleurs dans ton cœur. C'est bleu, blanc, rouge. Mais le blanc c'est quand t'as peur. Mais le blanc c'est quand t'as peur.
Si t'étais un dictateur, toi tu te donnes du mal, tu vas déjeuner avec Sakharov, Valéza, et puis tu viens à la télé, on te demande si t'étais un dictateur sur une chaîne publique.
Je suis en train de chercher le nom des dictateurs qu'il y a dans Tintin, dans le dernier Tintin.
Ah ouais, tu vas nous refaire le coup de Tintin, comme
ouais,
limite.
Ouais, Monsieur Carédas. Bon, disons un dictateur de République bananière parce qu'il saute tous les 8 jours.
Ouais.
T'as voté pour qui en 81?
J'ai voté pour l'actuel président.
T'as voté pour Mitterrand, ouais. T'as eu raison, dis donc.
L'auteur et chanteur aurait pu être ici en confidence pour Radio Alpa, mais non, il était juste au micro d'Isabelle Morini-Bosque sur Europe 1 en mai 2018.
Imaginez que je suis à l'Élysée à côté du président et on parle de tas de choses, on parle de Marguerite Duras. D'ailleurs, un jour, je lui dis, je peux vous poser une question indiscrète? Alors il rigole et puis... Et on verra bien, hein, je réponds ou je réponds pas. J'ai dit, est-ce que vous avez été l'amant de Marguerite Duras? Et là, il éclate de rire, renversé sur son fauteuil.
Oui.
Et il me dit, la vérité, hélas, non. Parce qu'il me dit, elle était très désirable et j'aurais bien aimé, mais ça ne s'est pas fait.
En fait, Marguerite Duras était mariée depuis 1939 à Robert Antelme. Alors que tous les trois s'étaient enrôlés pile au bon moment dans le même réseau de la résistance, Antelme est quand même déporté. Dans le même son, Yves Simon se rappelle ce que lui raconta un jour Mitterrand à l'Élysée. Alors nommé en mai 44 secrétaire général aux prisonniers, déportés et réfugiés, en avril 45, Mitterrand sauve Robert Antelme d'une mort certaine en le rapatriant in extremis à Paris. Ce dernier sera l'auteur d'un témoignage essentiel sur les camps. Sans transition pour Mirabel TV à Nancy en mai 2012.
Oui, c'est vital et j'ai vu qu'une période de ma vie où j'ai arrêté la chanson au profit du roman, eh ben, je n'ai pas été heureux. Je le vivais mal et je ne savais pas pourquoi. Je suis plus heureux depuis que j'ai recommencé à refaire de la chanson et alterner. Ça a été toute ma vie une source d'équilibre parce que l'un tout seul est une source de déséquilibre. Quand on fait que, et surtout de la chanson, avec le succès que j'ai eu à un moment, etc., c'est très déséquilibrant dans ses rapports humains, dans les rapports avec l'argent, les rapports avec plein de choses.
Ils sont seuls dans un lieu qui ne porte pas de nom, ni frontières, ni rivières. Ce paysage de désert est à leur image. 400 bannis, palestiniens, 400 hommes sans patrie sur une bande de terre sans nom.
J'ai besoin de ces deux écritures. Une me repose de l'autre, si j'ose dire, ou l'une me distrait de l'autre. C'est très agréable d'avoir, c'est comme une caméra, il y a des focales différentes, des fois on a envie de voir les choses de près, des fois on a envie de les voir loin, on a envie de les voir en plan large ou des fois très serrés. C'est un peu ça, c'est l'envie de voir avec un autre œil, une autre mentalité, d'autres images dans sa tête, le monde dans lequel on vit et la manière de le décrire.
C'est simple et évident. Quand je me remets à écrire, alors à une époque c'était devant des feuilles blanches, maintenant c'est devant un écran, et depuis longtemps, depuis 84, j'étais un des premiers à avoir un ordinateur, un Apple, un Macintosh, et je suis très 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 heureux. C'est une ambiance. La nuit, quand on s'endort, on pense à ce qu'on va écrire le lendemain déjà, ou bien quand je marche dans les rues de Paris, ou d'ailleurs, je pense à mon roman, je me dis comment je pourrais le nourrir, comment je pourrais inventer quelque chose, etc. Et donc, c'est un moment très, très heureux. Je suis plutôt inquiet quand je n'écris pas.
Je dis à Justine qu'il fallait à nouveau partir, que le temps des fuites était revenu. Elle dit, partir où? Je dis que le monde était vaste et que les émigrants sont des gens résistants. La pluie et les gerçures n'ont plus de prise sur eux. Ils sont en état d'affronter ce que les maisons leur refusent, ce qu'un pays leur refuse, et lorsqu'ils quittent un lieu, le reste du monde est à eux. Sortie de nuit, Grasset, 93.
Amazoniaque.
tes cheveux, tes bras qui m'en serrent, c'est bien là que je me perds. Indien d'amas, je n'y attrape au cœur des maladies. Contagion express envoyé par courrier civilisé. Je zone, c'est l'Amazon. Carrefour et je me perds, le cafard, le feu est vert sur les boulevards.
Titre paru sur l'album de 83, Amazoniac est repris à sa manière en 2016 par Christine and the Queens. 20h de France 2, le 24 août 99.
Il s'inspire des rumeurs de la ville, des mots qu'il entend au hasard chaque matin dans le même bar. Un café, un journal, un carnet, c'est comme un rituel. Sur son nouvel album, 12 chansons et toujours la même poésie, pour des textes sur les femmes afghanes par exemple, ou encore sur le peintre Basquiat.
Beau et secret comme une femme, de Port-au-Prince à Manhattan, le jeune homme noir a peint en acrylique. L'emblème lancinant, comme les dessins tristes des enfants, des sous-marins, des revolvers et des avions.
On l'aura compris, un artiste tel qu'Yves Simon est sans doute dans ce monde, mais non, son monde inclut notre modernité.
Je crois que la chanson, c'est quelque chose qui est toujours inscrite dans l'air du temps. Donc, il ne suffit pas de suivre les modes, il suffit de les précéder.
Inlassable piéton, il papillonne toutes les modes, toutes les émergences. Ainsi, alors que le rap est désormais bien dans nos villes et dans nos vies, en cette fin de siècle, nous sommes en 99, voici ce qu'il ébauche du rap.
Ils ont repris cette langue et ils jouent parfaitement avec elle. Et je pense que c'est ça, la séduction du rap, c'est la musique minimaliste, oui, ça a été le reproche souvent, mais quelle beauté de mots, quelle force de mots, à la fois sur la linguistique, donc travail, et sur la société.
Dans l'album Génération éperdue, en 2018, Junior y reprend un titre de 75, Les héros de Barbès. Le clip est vraiment sympa, décor, costume et casting impeccable.
Du 18.
qu'est-ce que, en une fin de XXe siècle comme ça, qu'est-ce qu'on emporte dans sa musette, dans son bagage, pour passer de l'autre côté? Et qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre à des gens qui vont m'écouter ou qui vont aller bien plus loin que moi dans le siècle à venir? J'ai envie de leur transmettre mes émotions, les choses à la fois importantes qu'on a vécues, c'est-à-dire il y a eu des grands malheurs, il y a eu des guerres, mais moi je les ai pas vécues, mais des très petites choses de notre vie. Et j'ai envie de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'essentiel d'une époque. Et je crois que les poètes et les artistes essayent de retrouver ces choses invisibles qui sont d'une époque, pas les choses qu'on voit à la télévision dans un reportage, c'est ce qu'il y a en dessous. Et un écrivain, un poète, il peut rendre hommage avec une chanson, c'est mon seul moyen, c'est petit les moyens qu'on a, mais c'est dire ces gens-là existent, on leur rend hommage avec une chanson, avec un poème, avec un roman.
Et nous voici rendus presque à la fin de cette troisième visite de la saison 8 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, rediffusion de la semaine et podcast à venir sur la page de l'émission sur radioalpa.com ainsi que toutes les bonnes plateformes de réécoute libre. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans cette chanson sur les femmes afghanes, encore tristement d'actualité. Alors que j'ai prévu pour bientôt des visites à l'Iran d'aujourd'hui et à ses femmes et sa jeunesse courageuse, rappelez-vous, il y a 25 ans, l'Occident découvrait avec effarement la brutalité des talibans. Armés, violents, ils étaient l'une des faces les plus sombres de l'humanité. Puis, 2 ans après, ce fut l'assassinat du commandant Massoud, les attentats du 11 septembre, et depuis 25 ans, une vie infernale pour les femmes afghanes, la liberté et la culture dans ce pays. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, et d'ici là, je vous laisse avec une dernière citation d'Yves Simon. On dit que l'amour est la seule chose à ne jamais chercher puisqu'on ne le trouve justement pas de cette manière.
Des chansons comme Les Afghanes, qui est sur un sujet d'actualité, où les femmes afghanes, et c'est à partir de là qu'une chanson naît, c'est-à-dire une émotion justement à la télévision, une émission passe sur les Afghanes, je regarde cette émission et je me dis qu'est-ce qu'on fait? On a notre conscience malheureuse quand on regarde.
Inconnue, signée de son seul prénom, Célia. J'aurais voulu être métisse pour que chaque coin de ma peau soit la mémoire d'un peuple.
Où sont les yeux des Afghans?